Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour chez vous, mon nom est Emmanuel Choquette, je suis professeur au département de communication. Mais comme je le disais lors du premier épisode de cette série de deux épisodes de l'émission Onde commune, c'est pas mon show, c'est celui des étudiants en communication stratégique internationale que je salue, ils sont tous et toutes avec moi. Bonjour groupe.
Bonjour.
Alors comment allez-vous?
Ça va très bien.
Oui, 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 absolument, ça va super bien. Ça va super bien parce que la session s'achève. Alors, on va donc pouvoir voguer vers la session d'été ou le bonheur d'été qui s'en vient. Quand on regarde à l'extérieur, c'est pas clair, mais en tout cas, on en reparlera une autre fois. On a une super émission aujourd'hui et on parlait bien sûr de beaucoup de choses et parfois de sujets évidemment plutôt graves. Je vous rappelle un peu l'objectif de cette émission, hein, c'est donc de parler de communication stratégique internationale, d'enjeux internationaux, essayer de vulgariser, de mieux comprendre aussi certains enjeux. Et le premier n'est pas le moindre et beaucoup dans l'actualité depuis un certain temps. Et pour en discuter, j'accueille Jaël et Nora. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Donc oui, premier sujet, évidemment, difficile de passer à côté, les fameuses frappes, l'intervention en Iran.
Oui, oui, effectivement, on va parler avec Jaël et on a eu l'aide d'Alban, qu'on remercie aussi d'ailleurs,
oui.
Sur ce qui s'était passé, les frappes qui ont été menées par les États-Unis et Israël face à l'Iran. Mais on va surtout discuter ensemble des différentes réactions qu'il y a pu avoir au sein des différents pays, surtout la France et le Canada qui n'étaient pas au courant et qui l'ont dit, qui l'ont expressément dit publiquement. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va pouvoir s'intéresser.
Ben, on va écouter ça tout de suite. Ça s'appelle « Entre frappe et stratégie cachée », reportage, et on en discute tout de suite après.
Aujourd'hui, avec Jaël, on va vous parler d'un sujet qui fait beaucoup réagir en ce moment sur la scène internationale.
On va parler des frappes militaires des États-Unis et de l'Israël contre l'Iran, et surtout de ce qu'elles révèlent sur la circulation de l'information entre les États. Et vous allez voir que derrière les déclarations officielles, il y a une véritable guerre de l'information qui se joue en parallèle du conflit militaire.
Voici d'abord les faits. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont mené conjointement des frappes militaires en Iran. Ces attaques ont visé des installations militaires et des infrastructures liées au programme balistique iranien. Elles ont également coûté la vie à plusieurs figures importantes du pouvoir iranien, dont le guide suprême Ali Khamenei.
Pour comprendre pourquoi ces frappes ont eu lieu, il faut rappeler quelques éléments de contexte. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis sont anciennes. Elles s'expliquent notamment par trois raisons principales. La première, le programme nucléaire iranien. La deuxième, le soutien de l'Iran à des groupes armés comme le Hamas à Gaza. Et enfin, la dernière, la répression violente de manifestants en Iran en janvier 2026, une répression qui aura fait, selon plusieurs ONG, environ 30 000 victimes.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'aspect militaire qui nous intéresse le plus. Du point de vue de la communication stratégique, notre angle porte sur l'analyse des réactions des chefs d'État face à ces frappes, et surtout de se demander qui était au courant, mais qui ne l'était pas.
Parce qu'en relation internationale, l'information, c'est une arme. Savoir avant les autres, ça donne un avantage. Et être tenu à l'écart, ça dit aussi quelque chose sur votre place dans les alliances. Tous les acteurs n'ont pas accès aux mêmes informations et cette inégalité crée des rapports de force très concrets. Aujourd'hui, on va vous montrer comment ça se traduit dans les faits.
Commençons par les réactions. En France, le président Emmanuel Macron a réagi sur son Twitter en milieu de journée avec une déclaration prudente. Il a dit, et je cite, « Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale. »
Il a aussi précisé que la France était prête à protéger son pays et à soutenir ses alliés si nécessaire.
Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont tenu un discours similaire. Dans une déclaration commune, les trois pays, France, Allemagne et Royaume-Uni, ont condamné, je cite, « avec la plus grande fermeté les attaques iraniennes contre les pays de la région », tout en se disant prêts à des actions défensives si nécessaires selon le site officiel de l'Élysée.
Du côté des opposants aux frappes, l'Espagne s'est démarquée. Le journal The Guardian montre que c'est le seul pays de l'Union européenne à s'être ouvertement opposé à l'intervention. Le premier ministre, Pedro Sanchez, a qualifié ces frappes de dangereuses. Et le gouvernement espagnol est allé encore plus loin. Il a interdit aux États-Unis d'utiliser deux bases militaires espagnoles pour mener des attaques contre l'Iran.
La Russie, de son côté, a dénoncé une aventure dangereuse et une agression préméditée, avertissant que la région était au bord de la catastrophe, selon le journal russe.
Et les Nations Unies, par la voix de leur chef des droits de l'homme, Volker Türk, ont appelé toutes les parties à revenir à la négociation. Je cite le site des Nations Unies et des Droits Humains. J'appelle à la retenue et j'implore toutes les parties à avoir la raison.
Venons-en maintenant au cœur de notre analyse. Parmi les pays qui ont confirmé publiquement de ne pas avoir été informés à l'avance, on retrouve la France et le Canada. Et c'est justement ce choix de le dire ouvertement qui est stratégiquement intéressant.
Le premier ministre canadien, Mark Carney, a eu une réaction en deux temps. Il a d'abord soutenu les frappes américaines avant de faire marche arrière et de les qualifier comme contraintes au droit international. Selon Radio-Canada, il ajoute « Nous n'avons pas été informés à l'avance. On ne nous a pas demandé de participer. » Cette marche arrière du Canada est un exemple parfait de ce qu'on appelle une crise de communication. Carney a d'abord réagi sans avoir toutes les informations, ce qui l'a forcé à se contredire publiquement. C'est exactement ce type de situation qu'un service de communication gouvernementale cherche à éviter à tout prix, parce que ça nuit à la crédibilité du chef d'État.
Le président français, Emmanuel Macron, lui a été encore plus direct. D'après RTL, je cite, « La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme l'ensemble des pays de la région. » En rendant publique cette mise à l'écart, Emmanuel Macron fait quelque chose d'intéressant. Il retourne la situation à son avantage. Plutôt que de sembler dépassé par les événements, il se présente comme un acteur responsable qui n'a pas cautionné une décision prise sans lui. C'est une manière de transformer une faiblesse, ne pas avoir été informé, en un argument de légitimité.
Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit stratégiquement ?
D'abord, dire « on n'était pas au courant », c'est une façon de se distancer d'une intervention controversée, sans pour autant rompre avec ses alliés américains. C'est protéger son image sans payer le prix d'un conflit diplomatique.
Ensuite, si la France et le Canada n'ont pas été prévenus et qu'ils le disent publiquement, c'est que les États-Unis ont choisi de ne pas les consulter.
On appelle ça le contrôle de l'information. On garde le secret pour éviter les fuites, garder l'effet de surprise et agir sans avoir à convaincre ses alliés.
Par contre, ça a un coût. Ça crée de la méfiance entre les alliés. Ça force certains pays à improviser comme Mark Carney et ça donne l'image d'un monde divisé. Finalement, ce conflit nous montre que dans les relations internationales, tout est communication.
Qui décide d'agir? Qui est informé? Qui apprend l'information en même temps que le grand public? Toutes ces questions ont des réponses stratégiques. Et ces réponses dessinent une carte invisible des alliances réelles. Pas celles qu'on affiche dans les discours officiels, mais celles qui existent vraiment dans les coulisses du pouvoir.
Super intéressant. Beaucoup d'analyses dans ce reportage aussi, de perspectives stratégiques, on l'entend très bien. Bon, c'est sans doute peut-être un peu exagéré de dire que tout est communication, mais s'il est vrai que là-dedans, il y a beaucoup d'enjeux de communication, je pense que l'enjeu des alliés là-dedans qui ont été informés ou pas, ou le fait que de le dire aussi publiquement, est en soi un aspect intéressant, n'est-ce pas, Jaël?
Oui, effectivement. Je pense que justement, les pays qui ont été informés en fait, il n'y a pas eu beaucoup de pays informés, puis je pense que ça, c'est une décision intentionnelle, justement, des États-Unis.
Dans quelle mesure ça, Nora, ça peut, à ton avis, sur le plan de la communication stratégique, ça peut jouer dans le sens, si on est un allié, et qu'on se dit, du moins, allié des États-Unis, comme le Canada, par exemple, et qu'on dit qu'on n'a pas été consulté, est-ce que ça démontre pas, finalement, qu'on n'est peut-être pas un allié tant que ça?
Bah, malheureusement, un petit peu. C'est ce qu'on explique un peu dans ce reportage.
Exactement. Je veux dire, mais
Est-ce qu'on est véritablement des alliés alors qu'on n'est pas au courant, alors que une telle guerre qui a été mise qui a été déclenchée, la plupart devraient être informés quand même majoritairement. Mais c'est aussi pour ça, je pense, que la France et le Canada ont publiquement énoncé le fait qu'ils n'étaient pas informés pour montrer à quel point c'était pas normal, je pense, et de le souligner. Et de ne pas aussi faire partie de cette décision qui eux-mêmes ne l'ont pas prise.
Bien évidemment, au moment où on se parle, ça évolue, j'allais dire. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça évolue, si tant est que le mot « évoluer » peut avoir un sens positif. Dans ce cas-là, je ne suis pas certain. Mais est-ce que, quand on regarde la situation aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, les enjeux dont on va parler dans quelques instants aussi, notamment tout l'enjeu sur le détroit d'Hormuz, etc., est-ce que la communication entre les alliés est encore présente selon vous? Est-ce qu'on a l'impression que c'est pas quelque chose qui va super bien encore au moment où on se parle?
On sent que ça se dégrade un peu, mais je pense que le fait que tout le monde ait réagi avec ses différents discours montre qu'ils veulent quand même rester... c'est un moyen de communiquer, mais en distance, si je puis dire. Dans le sens où ils se sont pas communiqués directement face à face entre présidents, mais ils l'ont dit publiquement. Mais c'est aussi une manière de communiquer, je dirais, différemment, mais une manière de communiquer pour garder quand même ce fil-là entre eux.
Ben, reportage super éclairant, encore une fois, sur beaucoup d'aspects de la communication stratégique dans des contextes dramatiques, dans des contextes, évidemment, d'intervention militaire, de guerre. Je vous remercie beaucoup, vous deux, vous trois, devrais-je dire, avec Alban, bien sûr. Et petite pause musicale. Et on continue sur ce sujet-là, mais avec un volet, un autre aspect. À tout de suite. Deuxième sujet, ben en fait, on reste effectivement dans ce conflit en Iran, mais on va regarder une perspective évidemment très économique notamment. J'accueille Nathan, Derek aussi. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Est-ce là seulement votre œuvre à vous deux? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont collaboré à ce
document? C'était seulement une œuvre de moi et Derek.
D'accord, parfait. Ben, une belle réussite. Effectivement, on va pouvoir l'écouter dans quelques instants. De quoi on parle exactement, Nathan?
On va parler de narratif du pétrole. Donc, le narratif, qu'est-ce que c'est? C'est qui contrôle le discours autour du pétrole? Qui parle? Dans quel contexte? Mais aussi, dans quelle situation est-ce que le pétrole est en ce moment? Donc, c'est de ça qu'on va parler en ce moment. Et comment est-ce que ce narratif-là va venir influencer la situation dans laquelle on se trouve en ce moment avec dans le détroit d'Ormuz?
C'est intéressant parce que quand tu dis narratif, c'est donc l'histoire, comment on raconte cette histoire-là, de quelle façon est-ce que stratégiquement parlant, on peut comprendre un phénomène X, Y, Z. Votre titre est assez éloquent à cet égard-là. Vous dites « Le pétrole, une arme narrative du conflit en Iran ». Donc, de qualifier comme arme, c'est en soi quelque chose de narratif, en effet.
Oui, tout à fait. Ben, c'était vraiment dans le cœur du reportage. Donc, cet aspect de arme, comment est-ce que aussi les dirigeants vont l'utiliser, mais comment est-ce que aussi les opposants vont les utiliser, cette arme-là, face au conflit iranien-américain?
Écoutons ce reportage, on en discute tout de suite après.
We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
And we don't see any reason why we should negotiate it with the U.S. When we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations.
So Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do?
We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
Depuis des semaines, le détroit d'Ormuz est devenu le centre de gravité d'une guerre qui dépasse largement les frontières de l'Iran. Comme le mentionne la BBC, par ce couloir étroit transité, avant le conflit, près d'un cinquième du pétrole mondial, ce qui en fait l'un des points les plus sensibles de la planète pour l'économie et la sécurité énergétique. Officiellement, le conflit oppose Washington et Téhéran autour des frappes, des sanctions et du contrôle de ce détroit stratégique. Mais derrière les missiles et les navires de guerre, il y a un autre champ de bataille, moins visible, celui des messages, des perceptions et des marchés. Début avril, par exemple, lorsque Donald Trump menace de frapper les installations énergétiques iraniennes si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert, le Brent grimpe autour de 110$ le baril dans les heures qui suivent. Quelques jours plus tôt, au contraire, comme le rapporte Radio-Canada, quand Trump parle de très bonnes conversations et annonce qu'il retarde d'éventuelles frappes contre l'infrastructure énergétique iranienne, les prix reculent et les marchés se détendent. Ces oscillations ne sont pas un simple bruit de fond, elles deviennent un instrument, que ce soit pour servir à légitimer des positions, rassurer des opinions publiques ou au contraire menacer et mettre la pression, simplement en jouant sur la façon dont on parle du pétrole, on gagne du terrain dans la bataille des perceptions. Le pétrole devient donc un levier pour contrôler le narratif de guerre.
Aujourd'hui, on ne va pas parler du pétrole comme une simple ressource énergétique, mais bien comme un personnage de roman, une sorte de David contre Goliath dans un bras de fer qui oppose l'Iran face aux États-Unis. Le baril de pétrole s'est devenu un véritable levier narratif, une arme de communication massive. Selon une analyse récente du journal Le Monde, on est vraiment passé d'une guerre de l'énergie à une guerre de la perception d'autrui. On va commencer par Téhéran. Pour l'Iran, le pétrole, c'est un bouclier. quand il menace de bloquer le détroit d'Ormuz où transite environ 20% de la consommation mondiale, ils se présentent jamais comme des agresseurs. Selon la chaîne Al Jazeera, la communication officielle suit la ligne de la victime souveraine. Bloquer le détroit, c'est pas une attaque, c'est une simple réponse légitime à l'agression des sanctions américaines. Mais en 2026, ce récit-là évolue vers quelque chose d'un peu plus subtil. Selon la revue Foreign Policy, Téhéran essaye d'imposer l'idée d'un droit de passage. En gros, au lieu de menacer de fermer la porte, on propose de la laisser ouverte, mais en échange d'une taxe sur chacun des barils afin de financer la sécurité qu'ils assurent dans la zone. C'est un coup de génie au niveau narratif, parce qu'ils sont plus ceux qui créent le chaos, mais ceux qui réclament un salaire pour le gérer. Ils tentent de transformer une menace militaire en une simple gestion administrative, comme un peu à l'image d'un péage d'autoroute. Face à eux, la stratégie de Donald Trump, elle est radicalement différente. Lui vient plus utiliser le pétrole pour dominer les marchés par sa parole. Son dit favori, c'est vraiment le récit du calme imposé. Et pour comprendre cet impact, il faut regarder les analyses de Bloomberg. On se souvient qu'un seul tweet de Trump peut faire basculer le cours de la bourse de façon spectaculaire. En 2020, il avait fait bondir les prix de 25% en seulement quelques heures, simplement en annonçant une discussion possible entre les grands producteurs de pétrole. En 2026, il joue sur l'inverse. Il vient multiplier les ultimatums proposés entre les deux camps. Mais selon le Wall Street Journal, il s'efforce un peu de minimiser cette crise dans ses discours, artificiellement la panique des marchés pour éviter que l'inflation ne vienne punir les consommateurs américains. Puis au final, celui qui contrôle le récit va finir souvent par contrôler les prix.
Au fond, ce que révèle cette guerre autour du détroit d'Ormuz, c'est que le pétrole n'est pas simplement un carburant pour l'économie mondiale, c'est aussi un carburant pour les récits politiques et les stratégies de communication. Dans cette guerre, les armes ne sont pas que des drones ou des missiles, mais c'est aussi des mots, des tweets, des conférences de presse qui, en quelques minutes, déplacent des milliards de dollars sur les marchés de l'énergie. À l'heure de l'enregistrement de ce reportage, le cessez-le-feu est tout juste tombé. Concrètement, l'annonce a déjà fait refluer une partie de la prime de risque sur le pétrole à près de 90 $ du baril, les marchés anticipant la réouverture progressive d'Ormuz et un retour à des flux plus stables. Même en temps de trêve, le pétrole continuera d'être au cœur de cette guerre des perceptions entre ceux qui veulent prouver qu'ils peuvent protéger le marché et ceux qui veulent montrer qu'ils peuvent, à tout moment, et bien le faire trembler.
Vraiment fascinant, encore une fois, et ce lien sur le narratif, le pétrole, dans des contextes comme celui-là, c'est vraiment super intéressant, bel angle, vraiment, vraiment pertinent. Derek, le cessez-le-feu. En ce moment, là, justement, c'est fragile, évidemment. Et le pétrole dans le cessez-le-feu, etc.
Le cessez-le-feu a définitivement évolué.
Je ne suis pas sûr que ton micro est ouvert.
Ah, non. Okay. Mon micro n'était pas ouvert.
Alors voilà. Alors il est très bien ouvert, là, on entend super bien.
Le cessez-le-feu, il a quand même assez évolué depuis le reportage qui était la semaine passée. Disons que c'est un cessez-le-feu assez chambranlant. Pour ta question, je veux dire. Mm-hmm. Le pétrole prend quand même un angle narratif assez différent. Tu sais, je veux dire, c'est maintenant c'est un peu un garant un peu de la stabilité de la trêve plutôt qu'un élément de pression. Ça devient un peu une genre de patate chaude un peu qui garantit justement cette trêve. Ça prend une dimension complètement différente, là.
C'est comme si finalement, et tu le dis, vous le dites dans le reportage, c'est comme si le pétrole finalement c'était devenu un enjeu hyper majeur, quelque chose de plutôt technique, et qu'on mettait de côté tout à coup l'aspect conflit, l'aspect guerre. Mm-hmm.
Oui, il y a tellement de choses qui sont mises de côté par rapport à l'aspect guerre. Mm-hmm. Les prix intéressent tellement de plus en plus les Américains, même que les opposants à Trump se servent maintenant de ça comme une arme, dans le sens que c'est à cause de Trump, maintenant, on est rendu avec le baril de pétrole qui est beaucoup trop cher et qui paye, ce sont les consommateurs américains. Mm-hmm. Mais qui paye réellement là-dedans? Ce sont les victimes de cette guerre. Oui, effectivement, le baril de pétrole touche énormément de gens, mais on parle quand même de vie humaine par rapport à un problème économique qu'on vit.
Exact. Et dans la mesure où cette opération-là ne semble pas avoir été particulièrement planifiée, en tout cas du moins avec une coalition plus large, on a quelque chose de relativement improvisé. En deux secondes, Derek, t'as l'ajouté.
J'ai ajouté quelque chose. En deux secondes?
Oui.
C'est dommage comme conflit.
Oui. c'est pas banal le fait que tu dises que c'est dommage. Parce que, effectivement, ça nous le mot a l'air tout à fait banal, mais dans les faits, c'est tout ça avec des. On peut penser à des prétextes, finalement, mais qui ont véritablement un des impacts concrets sur la vie de milliers, voire de millions d'individus. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment dommage.
Regardons au-delà du prix du pétrole.
Oui, effectivement. OK, on fait une courte pause, puis dans quelques instants, on fait débouler un peu l'actualité.
On prend une pause. Faut bien payer le loyer.
88.3, c'est fac. Ça part ici.
Ruche Campus, le regroupement étudiant qui a pour mission la sensibilisation au déclin des pollinisateurs, t'offre de participer à sa récolte de miel. Implique-toi en faisant partie des comités de fermentation, de transformation, de conservation, d'éducation et d'apicole. Pour en savoir plus, contacte-nous sur la page Facebook de Ruche Campus. Rejoins le Funky Bunch du 16. Le 16, c'est le show du retour de la communauté étudiante. Chroniques, entrevues et sujets variés au rendez-vous. Le 16, les mercredis dès 16h au 88.3 CFAQ. Fan de sport en tout genre, rejoins Wissem dans l'émission Le Terrain Sportif.
Le Terrain le Sportif. Terrain.
Le lundi à 20h, seulement sur CFAQ.
C'est le volet actualité internationale, quelques enjeux qu'on va mettre en perspective. Et pour commencer ça, j'accueille tout d'abord Daphné et Alain. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Daphné, premier sujet, c'est le sport, encore une fois, qui nous interpelle dans des enjeux internationaux. L'UFC dans la cour de la Maison-Blanche, c'est quoi l'UFC? De quoi on parle?
Oui, c'est ça. Ça va être un événement qui est à la fois sportif, mais qui a une connotation quand même politique. En fait, l'événement qui s'appelle UFC Freedom 250 ou 250 aura lieu à Washington sur le terrain sud de la Maison-Blanche. Vous avez bien compris, la Maison-Blanche, le 14 juin 2026. C'est la ceinture champion UFC Lightweight qui va être en jeu. On aurait pu croire là, à la célébration du 250e anniversaire des États-Unis. Mais dans les faits, la date du 14 juin, ça correspond à l'anniversaire du président Donald Trump qui va fêter ses 80 ans.
Tiens donc, tout est dans tout.
Quelle surprise. Le message est donc double et surtout stratégique. Trump, qui a l'habitude de mêler politique et vie personnelle, va cette fois-ci se placer au centre d'un événement qui est somme toute nationaliste sur un terrain qui est foncièrement politique. Parce qu'ici, il n'est pas simplement question de sport, on est aussi dans une mise en scène du pouvoir politique américain. Un souper, 5000 invités qui sont soigneusement choisis, une couverture médiatique qui est massive, tout est pensé pour transformer cet événement en vitrine politique vers qui les yeux du monde entier seront rivés. Le choix même d'un sport de combat est loin d'être anodin. Bien que ce soit un des sports qui suscite l'intérêt du président américain, c'est aussi un sport qui rappelle la force, la confrontation, la virilité. Toutes des valeurs qui sont souvent mobilisées dans la communication politique américaine et qui évoquent le patriotisme. Ce qui se passe dans l'imaginaire collectif, c'est qu'on va associer l'image personnelle de Donald Trump à tous ces codes qui sont spécifiques à cet événement qui est UFC Freedom 250. Sur le plan de la communication stratégique internationale, le message est clair, projeter une image de puissance, de pouvoir et d'affirmation identitaire. C'est une forme de diplomatie qui est spectaculaire, c'est moins de dire, où le divertissement devient un outil politique de légitimation présidentielle. J'ai personnellement bien hâte de voir si la démonstration de la force américaine qui est souhaitée va se réaliser sur l'arène où la moitié des combattants de la soirée vont représenter les États-Unis.
C'est pas anodin, effectivement. Alain, elle a parlé, Daphné, de mise en scène. C'est de ça qu'on parle beaucoup quand même, la mise en scène dans ce cas-là du politique.
Oui, et moi, je dirais simplement que bon, l'annonce d'abord d'un tel événement soutenu par Donald Trump peut d'abord paraître, comment je vais le dire, un peu spectaculaire.
Oui, exactement, une spectacularisation.
Oui, spectacularisation. Oui, tout à fait. Et puis... Ça peut aussi soulever des questions parce qu'on se demande, dans un contexte actuel international où nous sommes, autour du conflit, autour du détroit d'Hormuz, est-ce qu'un tel événement, l'organisation d'un tel événement de show, est quand même propice pour le moment? Est-ce que c'est anodin pour l'organiser en ce moment-là. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être organisé pour juste rehausser l'image de Trump. Ou mm-hmm. Là, c'est des questions qu'on se pose.
Oui. On ne peut pas nier qu'il y a là une priorisation, semble-t-il, en tout cas, de l'image, du traitement de l'image. Peut-être qu'on met beaucoup d'accent sur le contenant plutôt que sur le contenu. Oui. Hein? Intéressant. Merci d'en avoir parlé ici à ce micro. Petite transition musicale et on continue l'actualité. On va s'éloigner du sport pour parler de l'art, mais de l'art, en fait, d'une personne qui, il n'y a pas si longtemps, on n'avait aucune idée vraiment c'est qui. Et là, semble-t-il que là, on a un petit peu plus l'idée de c'est qui. Mais on n'est pas obligé de le nommer ici, mais on veut surtout parler de ce personnage. J'accueille Alban, Audrey-Anne, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors donc, de quoi s'agit-il?
Ben, on a vu récemment dans la presse que l'identité de Banksy, l'artiste anonyme d'art urbain le plus connu au monde, aurait potentiellement été dévoilée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le plus important. Mm-hmm. On va surtout mettre en lumière sa capacité à faire passer des messages universels impactants.
Ben oui, on connaît un peu les œuvres de policiers qui s'embrassent, la petite fille au ballon, mais aussi un trompe-l'œil représentant une plage idyllique sur le mur séparant la Palestine d'Israël. Ces œuvres-là, peu importe leur localisation, témoignent d'une égalité vécue à l'international.
Ben oui, selon le rapport annuel 2025 de l'ONG Human Rights Watch, les droits humains n'ont jamais été autant attaqués dans le monde. Banksy, lui, a décidé de dénoncer les injustices de façon anonyme et non violente, tout en conservant son rôle de citoyen lambda. Et ce choix stratégique lui permet de mettre la lumière sur ses messages plutôt que sur lui-même.
En fait, là, on pourrait même le comparer à Robin des Bois. Comme ce personnage mythique, Banksy vit caché et refuse de faire partie de l'élite. Sa mission, c'est pas juste de faire de l'argent, mais de se rendre utile auprès du peuple. En 2022, justement, l'artiste a vendu des sérigraphies signées au bénéfice d'une association caritative qui aide les civils touchés par les conflits armés.
Oui, et son anonymat lui confère une légitimité à dénoncer ses enjeux universitaires. Universel, pardon. Ça aussi, c'est stratégique et ça contribue à sa grande popularité. Les gens sont touchés par ses œuvres, non seulement parce que les sujets les rejoignent, mais aussi parce que, selon la professeure et chercheuse Hélène Joff, les images ont un pouvoir émotionnel fort.
Oui, et elles impactent aussi profondément la mémoire, plus que du texte en tout cas. Ça explique pourquoi les œuvres de Banksy font partie, pour beaucoup de personnes, de l'imaginaire collectif. Même si son identité est révélée au grand jour, ses œuvres lui survivront. Parce que ce qui fait son attrait, ce n'est pas seulement son anonymat, mais aussi la puissance de ses messages.
Tellement intéressant. Banksy est un personnage fascinant, effectivement. Puis, et c'est vrai que ça marque l'imaginaire. Puis c'est vrai en même temps qu'il y a quelque chose de paradoxal parce que ses œuvres valent beaucoup de sous, même quand elles sont détruites. Prenons par exemple ce fameux moment où on vend une œuvre et au moment où elle est vendue, elle se déchiquette, elle est déchirée devant nous là, il y a quelques années.
Oui, puis ce qui est assez drôle, c'est que cette œuvre-là, justement, qui a été déchiquetée, s'est ensuite revendue beaucoup plus cher que celle qui a été qui est non déchiquetée, en fait. Puis Banksy s'exprime ouvertement là, contre le marché de l'art. Il n'est pas d'accord avec ça, lui, le fait de revendre des œuvres super chères. Puis c'est aussi pour ça, je crois, qu'il fait ses œuvres dans des espaces urbains, en fait, même si les œuvres dans l'espace urbain sont souvent arrachées ou enlevées pour ensuite être vendues ou même placées dans des musées.
En tout cas, votre sujet est fascinant et témoigne encore une fois que l'art, c'est bien plus que distraire. Ça a une portée sociale, une portée politique importante. Merci à vous deux.
Avec plaisir.
On revient sur le terrain sportif, mais là, cette fois, pour parler foot, c'est-à-dire soccer, dans ce cas-là, on parle de Coupe d'Afrique des Nations. Parle-nous-en donc un peu. J'accueille à nouveau Daphné, mais Alain, oui.
Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. Au fait, vous n'êtes pas sans savoir que la Coupe d'Afrique des Nations est organisée selon le calendrier de la CAF, Confédération africaine de football. Mm-hmm. Et cette fois-ci, ça a été organisé au Maroc entre décembre et janvier. Donc, en grosso modo, la finale est un événement à polémique. Parce que lors de la finale, il y avait un pénalty qui a été donné à l'équipe marocaine.
Voilà, le fameux pénalty.
Merci. Du coup, avant le pénalty, il y avait eu une faute que l'arbitre n'a pas sifflée. Il y avait eu un but, autant pour moi, qui n'a pas été accordé à l'équipe sénégalaise. Mm-hmm. Et du coup, l'équipe, les Sénégalais se sont, sous le coup de la colère, ont quitté le terrain pour quelques 4 et 15 de minutes. Et après, ils se sont revenus sur le terrain et le match a continué. Mais dans les prolongations, le Sénégal a marqué l'unique but de la compétition et qui leur trahait la finale. Donc, du coup, ils sont les champions de l'Afrique. Mm-hmm. Mais après 2 mois, la CAF sort une décision annulant cette victoire. Et là, ça a coulé beaucoup d'encre. Et puis, et on se demande si réellement le football africain n'est pas en train d'être terni. L'image n'est pas en train d'être ternie comme ça. C'est voilà.
Oui, et cette histoire-là que tu nous résumes de façon assez efficace, encore une fois, quand on le parlait pour l'art, c'est la même chose pour le sport. De toute évidence, le sport a des implications qui dépassent le cadre sportif, c'est-à-dire, dans ce cas-là, politique, hein, clairement, je pense, n'est-ce pas, Daphné?
Politique, un peu, oui, mais aussi très émotionnel là, pour les personnes qui sont impliquées, mm-hmm. les peuples qui suivent, en fait, cette coupe-là. On a vu vraiment l'impact là, que ça a eu. C'était vraiment, ça a suscité des émotions
oui,
fortes.
Oui,
là.
Oui, oui, ouais. Oui.
Puis on parle d'image, évidemment. Ce n'est rien pour améliorer l'image, souvent qu'on associe à la corruption dans les hautes sphères du foot. Là.
Justement, oui, parce que sans mentir, le Maroc a quand même débloqué beaucoup de sous pour l'organisation de cette compétition. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va falloir quand même les récompenser pour qu'ils ne tombent pas en faillite. Bon.
Ben, dossier à suivre, certainement. On refait une petite pause musicale avec notre super jingle. Et après ça, ben, c'est l'entrevue du jour. À tout de suite. Entrevue du jour pour nous parler de cette fameuse entrevue, les deux personnes notamment qui l'ont réalisée. Je salue Louisa et Astrid. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Est-ce que vous étiez toute seule sur ce coup?
Oui.
D'accord. Alors, présentez-nous notre personne interviewée du jour. Astrid d'abord, oui.
Oui. Alors, avec Louisa, on a décidé d'interviewer donc Laurence Delwaite-Bégin, qui est donc une conseillère en agence de relations publiques à Montréal, mais qui se trouve aussi être notre professeure de RSE et de communication responsable à l'Université de Sherbrooke. Mm-hmm. Et donc, on lui a posé des questions par rapport à la mission Artemis 2, qui, on le sait, se place dans un contexte avec une augmentation de l'activité spatiale, en particulier le tourisme spatial, qui est soutenu par la NASA. Et donc, on a voulu discuter de ce contraste entre une volonté des entreprises de devenir plus responsables et donc cette augmentation du tourisme spatial.
C'est fascinant. Bien sûr, Artemis 2 a mis tout ça sur la sellette. Le reportage s'appelle « Entrevue avec Laurence Delwaite-Bégin, NASA et responsabilité, est-ce incompatible? » On écoute ça et on en reparle.
Le 1er avril, on a la mission Artemis 2 qui a débuté avec un équipage de 4 personnes qui ont fait le tour de la Lune. On connaît l'impact énorme que suscite le lancement d'une fusée, mais on a aussi une notion de responsabilité qui est très importante pour la NASA, qui essaye vraiment de l'intégrer de plus en plus au sein des missions. Et en particulier, on a une attention qui est faite sur l'impact des activités humaines sur les sites de décollage et d'atterrissage, comme le dit Futura dans un article. Mais on a aussi la NASA qui veut lancer un appel de projet qui vise à trouver des solutions pour recycler plus efficacement les déchets spatiaux. Est-ce que tu trouves que c'est des actions pour l'environnement qui sont mises en place par la NASA qui sont plutôt hypocrites de leur part? Est-ce que c'est, on peut qualifier ça de greenwashing?
Ouais, c'est une bonne question. Je pense que la NASA, c'est un cas intéressant parce que nécessairement, avec la nature de leurs activités, c'est certainement polluant. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prétendre être dans l'absolu durable. Je pense que ceci dit qu'ils ne proclament pas qu'ils sont parfaits et qu'ils sont une entreprise durable à tous les égards. Ils sont conscients des impacts qu'ils ont. Ceci dit, ils essaient de minimiser les externalités, c'est-à-dire tout ce qui vient autour de leurs impacts ou de leurs activités, ben, de les réduire à travers différentes actions. Je pense que dans ce cas-ci, on comprend tous qu'effectivement, il y a des impacts, mais ils ont un souci de les minimiser, les externalités. Donc, je pense qu'il faut reconnaître ça positivement. Je pense que la NASA a quand même un rôle de symbole, de modèle aussi, à travers qui peut montrer ce qui est possible de faire, même dans une catégorie qui est quand même assez polluante, à travers différentes actions. Donc, je pense qu'ils ne s'assoient pas sur le fait qu'ils ne peuvent pas être parfaitement durables, mais ils essaient de trouver à travers le avant les décollages et après, c'est quoi les initiatives innovantes qu'ils peuvent mettre en place pour atténuer justement ces externalités-là qui sont inévitables.
Par rapport à ça, de plus en plus d'entreprises ils font demi-tour ou alors sont frileuses dans leur volonté de mettre en place plus d'actions environnementales. Penses-tu que le fait que de grandes entreprises mondiales comme la NASA, du coup, puissent avoir de l'influence vis-à-vis de ces perceptions-là et ces attitudes-là? Par exemple, si une entreprise voit l'impact écologique de la NASA, elle dénoncerait par exemple l'injustice du style « la NASA peut polluer, alors moi aussi ». Ou bien à l'inverse, le fait de voir que la NASA essaye de mettre en place des actions pourrait influencer la volonté de le faire aussi. Penses-tu qu'il y ait une influence des grandes organisations gouvernementales en soi?
Oui, je pense qu'il faut le voir de la deuxième façon, c'est-à-dire que la NASA peut que inspirer d'autres catégories à se dire « je suis dans un secteur qui est polluant, mais qu'est-ce que je peux faire quand même autour de mon organisation pour minimiser mon impact? » Je pense que la NASA démontre de plein d'égards sa responsabilité à travers sa posture d'expert, à travers la pédagogie, la vulgarisation scientifique. Il y a énormément de vecteurs d'activités où elle s'exprime pour contribuer à un rôle plus large dans la société que typiquement ce qu'on voit une fois par je sais pas combien d'années au niveau des décollages, qui est quand même un élément marginal, mais sont très investis au niveau de la recherche et de différentes implications. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut voir dans l'ensemble, la posture de l'organisation à travers son rôle plus large. Je pense que les gouvernements puis les grandes organisations comme la NASA peuvent être, comme je l'ai mentionné, un exemple. Donc, user d'exemplarité peut être un symbole d'innovation, de responsabilité, quoique imparfaite, bien sûr, mais qui continue d'avancer puis qui trouve les endroits où elle peut le faire dans la catégorie dans laquelle elle est.
Pour rebondir justement sur la position frileuse des entreprises à présent, on remarque depuis quelques années que les réglementations environnementales, elles se multiplient partout dans le monde et qui poussent les entreprises à reculer sur leur engagement climatique. On a par exemple le média La Bouscule qui apporte des données de Bain & Compagnie qui eux-mêmes notent une baisse de 30% de la préoccupation environnementale chez les dirigeants en 2024. On parle même d'un glissement du greenwashing vers le greenwashing, donc c'est les entreprises qui décident de se taire plutôt que de communiquer, parfois parce qu'elles n'arrivent tout simplement pas à suivre la cadence réglementaire. Selon toi, quel est le principal défi des organisations aujourd'hui face à la montée de ces nouvelles régulations?
Je pense que ça fait partie du défi qu'ont les organisations aujourd'hui de trouver le juste équilibre dans leur communication par rapport à leurs actions réelles. Effectivement, il y a eu des époques où c'était plus simple de communiquer sur des éléments qui étaient peut-être moins mesurés. Aujourd'hui, avec la législation, ça met une grande pression sur les organisations à bien faire les choses, à étayer leurs actions de preuve, à être très, très prudent aussi par rapport à ce qu'ils mettent de l'avant. Mais d'où le métier qui est passionnant de communicateur, qui vient vraiment essayer de bien comprendre, bien sentir le pouls justement des communautés autour des marques, leur responsabilité pour savoir où aller et jusqu'où aller aussi dans les communications.
Quel sujet fascinant que la responsabilité sociale des entreprises qui vont dans l'espace. Louisa, j'allais dire, comment tu as interprété cette entrevue-là au final? Est-ce que c'est possible, finalement, d'avoir une espèce de responsabilité sociale alors qu'on est une industrie aussi polluante que la NASA quand on envoie des fusées dans l'espace?
C'est compliqué parce que la responsabilité sociale des entreprises, ça dépend pas seulement des enjeux environnementaux. Il faut aussi regarder qu'il y a aussi des enjeux sociaux. Enfin, c'est des aspects sociaux, des aspects économiques et des aspects philanthropiques. Et ici, on le voit, NASA, elle se positionne plutôt sur les aspects sociaux, l'avancée scientifique, mettre l'humain en avant. Donc, c'est encore un peu compliqué parce que la RSE, c'est encore une définition qui est... encore en discussion, on ne sait pas trop sur quel point se positionner. Est-ce qu'on se positionne plus sur le social plutôt que l'environnemental? C'est un peu jonglé sur tous ces différents enjeux, quoi.
Quelque chose à ajouter, Astrid, rapidement?
Oui, moi, c'était une étude de Greenly, qui est un cabinet de conseil et d'analyse carbone, qui a essayé de voir un petit peu l'empreinte carbone de la mission Artemis 2 et qui a un peu estimé 2,343 tonnes de CO2. Et donc, même si on n'avait pas d'émissions durant le décollage, parce qu'on a eu que deux composants qui n'émettent pas de CO2, en fait, on voit que pendant la conception de la fusée, on dépasse les émissions qui avaient été faites dans la mission Apollo 8. Donc, on a une volonté de faire mieux, mais ce n'est pas encore ça.
Alors, c'est un peu le chemin entre, justement, la responsabilité sociale des entreprises dans la communication et dans les faits aussi. Hein. Il y a comme tout un écart. Je vous remercie, vous deux, de nous avoir apporté cet éclairage.
Merci. Merci.
On fait une courte pause. Et dans quelques instants, c'est déjà le moment, j'allais dire, du dernier enregistrement. Et on va parler d'une parole importante. À tout de suite.
Ouais, des pubs, c'est plat. Mais les nôtres sont bonnes et nos commanditaires sont vraiment géniaux.
88.3, c'est FAC.
Le Comité du droit animalier de l'Université de Sherbrooke est un regroupement étudiant qui a pour mission de sensibiliser la communauté étudiante et le grand public au droit animalier. Chaque année, nous organisons des événements captivants, des conférences avec des experts renommés et même une séance de zoothérapie. Pour découvrir toutes nos initiatives et en savoir plus, rendez-vous sur notre page Facebook et n'hésitez pas à nous envoyer un message. À très bientôt!
Ciné-histoire, c'est ton rendez-vous cinéphile hebdomadaire. Chaque vendredi midi, on est là pour vous tenir informé de l'actualité cinématographique de la semaine. Critiques, entrevues, dossiers spéciaux et capsules historiques, les sujets ne manquent pas. Abonne-toi également à notre chaîne YouTube pour du contenu supplémentaire. Ciné-histoire, c'est chaque vendredi à midi sur les ondes de CFAC 88.3 et en rattrapage sur Spotify et Apple Podcasts.
On te l'avait dit que nos bébés étaient pas mauvaises.
88.3, c'est FAC.
J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Jaël et Nora. Rebonjour à vous deux.
Rebonjour.
Dernier reportage de cette émission, et pas le moindre, on parle d'une personne dont on a beaucoup entendu parler, qui a aussi parlé de façon importante ces derniers mois, ces dernières semaines.
Oui, on parle de Gisèle Pelicot.
Oui.
Son histoire est très bouleversante parce que elle a été victime de crimes sans justement en avoir conscience. Mm-hmm. Puis aussi, j'ai oublié de dire, mais le reportage a été fait avec l'aide d'Audriane.
Ah oui, merci.
Puis justement, au-delà des faits, ce qui marque profondément, c'est ce qu'elle a décidé d'en faire. Puis justement, en choisissant d'en parler publiquement, elle est devenue une figure d'activiste féministe. Mm-hmm. Puis à travers justement ce reportage, on va voir son histoire, mais surtout la manière dont elle a transformé son vécu en mouvement mondial.
On parle d'une femme qui a été violée véritablement et à maintes reprises. Une histoire absolument horrible dont on a beaucoup entendu parler. On écoute ce reportage. Une parole intime devenue universelle. On en discute quelques instants après.
En 2020, dans une petite ville du sud de la France, une femme de 67 ans entre dans un commissariat. Elle s'appelle Gisèle. Un agent lui annonce que des milliers de photos et de vidéos ont été retrouvées sur l'ordinateur de son mari, Dominique Pelicot. 20 000 fichiers. Des images d'elle inconsciente, violée dans sa propre maison pendant 9 ans. Son mari lui administrait un médicament à son insu et invitait des inconnus recrutés sur Internet à abuser d'elle pendant son sommeil. Pendant toutes ces années, Gisèle perdait ses cheveux, du poids, avait des trous de mémoire et des problèmes de santé inexpliqués. Elle s'endormait sans prévenir et se réveillait à des heures plus tard désorientée. Elle consultait des médecins convaincus d'être gravement malade, mais personne ne trouvait rien, personne ne voyait rien. Et pendant ce temps, dans sa propre maison, l'horreur continuait. Les enquêteurs ont dénombré 92 viols, 54 hommes identifiés, des hommes ordinaires de tous les milieux, de tous les âges, des voisins, des pères de famille et des gens croisés dans la rue. Le procès s'ouvre à Avignon en septembre 2024. Gisèle refuse le huis clos, renonce à son anonymat et prononce ces mots. Il faut que la honte change de camp. Elle garde le nom Pellico pour que ses petits-enfants soient fiers d'elle. En décembre, 51 accusés sont reconnus coupables avec des peines variables allant de 3 à 15 ans d'emprisonnement. 21 agresseurs, eux, ne seront jamais identifiés. Son mari, lui, a été condamné à 20 ans de prison. Gisèle, elle, a 73 ans et dit ne pas savoir si sa vie entière suffira à se reconstruire.
Ce qui est fascinant, du point de vue de la communication stratégique internationale, c'est que son histoire a circulé avec une efficacité que peu de campagnes professionnelles atteignent. Pourquoi ? Parce qu'elle reposait sur la puissance du récit authentique. La BBC, le New York Times, des médias de dizaines de pays ont couvert le procès en direct, non pas parce qu'on les y avait invités, mais parce que l'histoire de Gisèle touchait à quelque chose d'universel. Sa phrase « La honte doit changer de camp » est devenue un slogan international sans jamais avoir été conçu comme tel. Traduite et reprise sur plusieurs continents, c'est l'exemple parfait d'un message qui transcende les frontières parce qu'il est profondément humain. Mais au-delà de la communication, Gisèle a déclenché quelque chose de plus profond, un mouvement. En refusant le huis clos, elle a posé un acte solidaire avec toutes les survivantes de violences sexuelles. Elle a brisé le silence autour des violences conjugales, une forme de violence longtemps tue parce qu'elle se passe dans la sphère privée. Elle a rappelé que le consentement est nécessaire en tout contexte, même dans le mariage. Son histoire a aussi mis en lumière des violences systémiques, un problème structurel, celui de certains hommes qui croient avoir un droit légitime sur le corps des femmes. Un patriarcat profondément ancré qui normalise des rapports de pouvoir inégalitaires. Et les effets concrets ne se font pas attendre. En Allemagne, Colin Fernandez, animatrice de télévision, cite Gisèle en renonçant à son anonymat après que son mari a diffusé de fausses images d'elle pendant 10 ans. Au Royaume-Uni, une autre femme fait de même. La parole se libère, frontière après frontière. Le magazine Time la reconnaît parmi les 100 personnes les plus influentes de 2025. 10 000 jeunes de 84 pays lui décernent le prix Liberté. Son livre et la joie de vivre ouvrent une nouvelle porte, celle de la reconstruction, publique et assumée.
Gisèle Pellico n'a pas fait qu'une campagne. Elle a fait quelque chose de beaucoup plus rare et de plus puissant. Elle a dit la vérité en public sans se cacher. Elle a transformé sa douleur en acte politique et son acte politique en mouvement mondial. Pour conclure, son histoire nous rappelle que l'activiste féministe ne naît pas toujours dans les rues. Il naît parfois dans une salle d'audience quand une femme décide que sa souffrance ne sera plus gardée dans l'ombre. Par contre, son histoire nous pousse aussi à interroger nos institutions. Pourquoi les médecins n'ont-ils rien détecté pendant 9 ans? Pourquoi des peines aussi courtes pour des crimes aussi graves? Ces questions, Gisèle les a posées pour nous toutes.
Eh hey, mais Gisèle, avant que tu termines, il est aussi important de rappeler que son histoire s'inscrit dans la lignée de MeToo ou bien de Balance ton porc pour la France. Ces mouvements qui, depuis 2017, refusent que les violences sexuelles restent dans l'ombre. Gisèle en est aujourd'hui l'un des visages les plus puissants. Et son histoire, on vient de vous la raconter. Elle avait 67 ans quand sa vie s'est effondrée. Elle en a 73 aujourd'hui et elle s'est relevée.
Gisèle a choisi la lumière et ce faisant, elle a éclairé le chemin pour toutes celles qui viendront après elle. Car tant que la culture du viol existera, il faudra des femmes comme elle pour la nommer, la dénoncer et refuser de s'y soumettre.
Reportage important, encore une fois, vraiment, tout à fait. Votre titre, c'est une parole intime devenue universelle. C'est une parole, puis vous le dites, c'est une parole qui se libère et qui libère aussi, Nora.
Oui, complètement, parce qu'avec cette parole-là, elle a ouvert la voie à beaucoup d'autres femmes et elle a montré un énorme courage en expliquant ce qu'elle a vécu et en étant présente aussi d'ailleurs, parce que pendant qu'elle expliquait ce qui lui arrivait,
oui.
Elle a visualisé les images, elle était présente devant tout ce qui s'est passé, donc ça représente un énorme courage. Et
absolument, témoigner de cela,
voilà,
rendre
ça,
compte de ce qui se passe,
témoignage.
Effectivement. Témoignage, voilà, c'était
c'est
le mot que tu cherchais,
c'est le terme que je cherchais.
Alors on l'a trouvé. Merci pour ce reportage, et nous, on fait une petite pause musicale avec notre beau et magnifique Jingo, et après ça, on termine avec une pièce pièce, une magnifique pièce venue d'Algérie. Fin d'émission et de deuxième et de dernière émission pour cette saison, j'accueille Saïda. Bonjour Saïda.
Bonjour.
Et je tiens d'ailleurs à remercier juste Alexandre Tardif qui est à la technique avec nous aujourd'hui. Alors vraiment, et je tiens à vous féliciter tout le monde pour cette magnifique émission. On parle d'une pièce, effectivement, je disais qu'elle est venue d'Algérie, une œuvre de Soul King. Présente-nous ça, Saïda.
Donc, la chanson « La liberté » de Soul King qui a été sortie en 2019 et elle est liée au Hirak algérien. C'est un mouvement populaire pacifique en Algérie. Donc, en février 2019, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé sa candidature pour une cinquième mandat présidentiel malgré son état de santé très grave. Cette annonce a provoqué une grande mobilisation citoyenne et des millions d'Algériens sont sortis manifester pour réclamer plus de liberté, de justice et un changement politique. La chanson est devenue un véritable symbole de Hirak. Dans ses paroles, Soul King exprime la voix du peuple, les souffrances des familles et l'espoir d'un avenir meilleur. Il critique le discours politique, jugé fou, et insiste sur l'idée que la liberté commence dans le cœur des citoyens. La chanson transmet un message d'unité et encourage un changement pacifique, ce qui correspond exactement à l'esprit des manifestations. Donc, Soul King est un artiste algérien qui a mélangé entre le rap, le raï et la musique urbaine moderne. Grâce à son style et à ses messages engagés, il a gagné une grande popularité internationale. Donc, la chanson « La liberté » a connu un immense succès et a dépassé plus de 300 millions de vues sur YouTube, montrant que son message a touché non seulement les Algériens, mais aussi le public mondial. Ainsi, cette chanson dépasse la musique et devient un symbole d'espoir, d'engagement citoyen et de liberté.
Merci de nous avoir présenté cette pièce-là. On va l'écouter en sachant tout cela. Bravo tout le monde pour votre extraordinaire émission, vraiment, vraiment, vraiment. Et on se laisse donc sur cette magnifique pièce de Soul King avec Ouleb El Badja, c'est ça? Hein?
Oui.
D'accord, alors on écoute la chanson Liberté. À la prochaine.
Bon débat.